Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Dans la revue de presse, donc la colère des policiers qui fait la une des journaux ce matin.
Et c'est intéressant, après Champigny-sur-Marne, nos journaux ne titrent pas sur les policiers, mais sur la police, une institution républicaine bafouée qui est prise comme un bloc. La police qui réclame une sévérité sans faille, le Figaro. La police qui ne fait plus peur, le Parisien aujourd'hui en France. Et il faut alors entrer dans les journaux pour entendre des individus, ces policiers qui subissent, nous dit le Parisien, depuis les émeutes de 2005, quand les voyous ont compris le pouvoir qu'ils avaient sur nous. Et à force de subir, on entend chez ces policiers plus encore que la colère, une tristesse. Ainsi, dans Mediapart, ce fonctionnaire, on est habitué maintenant qu'il soit en tort ou qu'il intervienne pour rétablir l'ordre. Le policier sert toujours de punching ball. Nous sommes devenus des cibles. Et ce fatalisme nous imprègne si loin de la force que l'on exige et que l'on attend de ceux qui nous protègent. Il y a aussi, Nicolas, autre chose qui colle à la conscience quand on lit la presse, Libération et Le Parisien encore, à propos de Champigny-sur-Marne, c'est le récit de ce qui s'est passé avant l'agression des deux policiers. Et on découvre dans les journaux un monde d'une médiocrité infinie que l'on offre aux jeunes. Une fête illégale, nous dit Le Parisien dans son édition du Val-de-Marne, dans un ancien hangar où le dimanche vont prier les fidèles de l'église évangéliste, mais qui n'a jamais été aménagé, ce hangar, pour recevoir du public, pourtant loué à un organisateur débordé, des jeunes qui s'exaspèrent, une rixe, un gazage, l'arrivée de la police, des flashballs, on connaît la suite. Ainsi vit-on, et pourtant, on reste humain. Le Parisien met en avant ce lycéen, Ali, qui dit avoir secouru la policière lynchée, et c'est un acte de foi que de le mettre en avant, une preuve d'espoir en l'humanité. Ainsi vit-on, et pas seulement à Champigny. Dans l'Est républicain, vous lirez le désarroi du quartier de la Grette à Besançon, où la ludothèque a été incendiée au cocktail Molotov la nuit du 1er janvier. 1500 jeux et jouets sont partis en fumée. Les enfants, là-bas, n'ont plus de halte-garderie. Dans la Voix du Nord, un homme raconte comment il a été pris en otage avec son épouse au milieu d'une nuit chez lui à Malo-les-Bains par des malfrats repartis avec des bijoux et sa voiture. Avec 4 cambriolages en 5 ans, ma femme ne veut plus vivre dans cette maison, dit Christian Hutin. Christian Hutin est député à l'Assemblée nationale, un de ceux qui font nos lois et qui subissent pourtant cette violence que l'on dit banale.
Charlie Hebdo, Claude, raconte sa vie quotidienne depuis l'attentat.
Et c'est une autre histoire de fragilité quand l'horreur vous a balafré et on prétend surmonter en criant « même pas peur, même pas mal ». Et pourtant, dans ce numéro de Charlie qui ne change pas, il y a par exemple un dessin de Rhys absolument terrible sur les enfants de djihadistes qui reviendraient de Syrie. On voit une cour d'école jonchée d'enfants massacrés et un bambin au sourire carnassier, le couteau à la main. Intégration des enfants de retour de Syrie, encore un échec de l'école, ironise Rhys. Mais ce pessimiste vengeur est celui d'un journal qui vit assiégé depuis 3 ans dans une boîte de conserve. C'est le titre de une, Charlie qui paye lui-même la sécurité de ses locaux. Dans un long article qu'il faut vraiment lire, Fabrice Nicolino raconte la vie des Charlie sous l'emprise de la terreur. Ceux qui n'ont pas peur sont des crétins. Les Charlie les plus menacés qui ne sortent plus. Fini les bars, fini les copains. Il y a aussi des moments drôlatiques. Ce jour par exemple où les policiers d'un Charlie ont fait sauter un colis suspect devant sa porte. C'était un cadeau, des cerises dont la chair rouge a retapissé le palier. Des policiers justement, on en parle beaucoup dans Charlie. Ces flics venus dans la vie du journal bien avant janvier 2015 et devenus les compagnons d'une feuille libertaire et menacée. L'un d'eux en est mort en janvier 2015, Franck Brinsolaro. Et ils sont toujours là, ces flics, parfois devenus des amis. Ces flics qui te conduisent trop vite parce que tu es en retard pour aller au journal. Ce flic qui avait fait des études de musicologie. Des lecteurs, des musiciens, des encyclopédies sur pattes, écrit le journaliste Philippe Lançon à propos de ces anges gardiens qui le veillaient à l'hôpital après l'attentat. Un jour, raconte-t-il, sa protection a été levée. Les flics sont partis. Me voilà nu, écrit Lançon. Sans les flics, on est nu, c'est écrit dans Charlie Hebdo.
La croix montre des Français, Claude, devenus libéraux en matière bioéthique.
Les Français favorables à la gestation pour autrui, les mères porteuses. Des Français favorables à la procréation médicale assistée pour les couples de femmes. Des Français favorables à l'euthanasie, voire au suicide assisté et à la modification génétique des embryons. Tous les détails de ce sondage IFOP sont dans La Croix. Mais ce qui est vraiment intéressant, presque émouvant, c'est que La Croix publie un journal qui va à l'encontre de ses valeurs bioéthiques. Ce que disent les Français, c'est le titre de une. Eh bien, ce que disent les Français, c'est le contraire de ce que pense au plus profond de lui-même un quotidien catholique qui rend compte d'un pays qui, culturellement, idéologiquement, n'est plus catholique. Les droits de l'individu, les possibilités offertes par les nouvelles technologies impose le franchissement des limites biologiques. Et Lacroix analyse méticuleusement cette défaite de son point de vue sur plusieurs pages. Et c'est passionnant à lire quand l'Église ou la société catholique se découvre minoritaire et appréhende l'illusion du discours politique. Et la manif pour tous, c'était une illusion idéologique, explique en substance le sociologue Alain Mergier. Et l'évêque du Havre, Monseigneur Jean-Luc Brunin, complète « L'Église s'est laissée abuser par un certain discours sur les racines chrétiennes de l'Europe » alors qu'un grand nombre de nos concitoyens ne partagent plus notre vision de l'homme. Il reste à débattre, dit alors Monseigneur Mergier et Monseigneur Brunin, et à réinvestir la société en évitant aussi bien le défaitisme que la croisade. On est toujours passionnant quand on se sait fragile. Et cette fragilité, Nicolas, nous accompagne aujourd'hui partout et bien au-delà de nos débats idéologiques. Pour finir, vous pourrez lire dans Ouest France et surtout dans le Télégramme la dignité des Rousseaux. Les Rousseaux, ce sont ces éleveurs de volailles dont les poulaillers ont été emportés par la tempête à Pont-Aven. On a souri de l'image de ce poulailler sur la route nationale 165. Mais derrière l'image, il y a cela. 6000 poules et poulets tués, un élevage où il ne reste que 2 poussins. Tout un travail de toute une vie balayée. Mais Maud Rousseau pourtant se réjouit. Il n'y a pas eu de victime sur la route. Elle ne se sent presque pas victime. Du coup, elle dit « Je ne suis pas prête à m'arrêter. Je n'ai pas envie de tricoter au coin du feu », dit cette femme dont la tempête a balayé la vie. On vit.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.